La grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu notre Père, en Jésus notre frère, le Christ notre Sauveur. Chers amis, bienvenue dans ce lieu de prière, que vous soyez là pour la première fois ce matin peut-être, ou que vous veniez après vos vacances, que vous reveniez au temple, ou bien que vous soyez ici avec nous par le biais des réseaux sociaux, vous êtes ici tous dans la même communion fraternelle. Nous sommes rassemblés ce matin avec ce temps mis à part dans nos vies, un temps pour prier, pour chanter, pour écouter une parole et pour nous replacer dans la présence de Dieu. Je vous invite à prier pour commencer ce temps de culte, et je pense particulièrement aux amis qui sont au Musée du Désert en ce moment, à l'Assemblée du Désert, et qui vont entendre ce matin la parole du président de la Mission Populaire. Nous sommes en communion avec eux, là-bas, à l'Assemblée du Désert. Éternel, nous te prions ce matin, comme les foules qui venaient prier Jésus de les sauver. Nous sommes tous venus avec nos petits sacs de misère, mais aussi avec nos pétales de joie et nos chapelets de points d'interrogation. Reçois-nous avec nos bagages et aide-nous à repartir d'ici en les portant avec grâce. Amen. Je vous invite à prendre le psautier français et la liturgie qui se trouve au début du psautier. Et c'est David Cassan ce matin qui accompagne ce culte. Merci David. Et nous louons le Seigneur avec le psaume qui a accompagné tant de vies, le psaume 23. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer sur des prés d'herbes fraîches. Il me conduit près des eaux paisibles, il restaure ma vie. Il me conduit sur les sentiers de la justice à cause de son nom. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Ta houlette et ton bâton, voilà mon réconfort. Tu dresses devant moi une table face à mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Le bonheur et la fidélité m'accompagnent chaque jour et je reviendrai à la maison de mon Père pour la longueur des jours. Chantons notre louange à Dieu avec le psaume 81, les strophes 1, 2, 3 et 4. Écoutons la volonté du Seigneur pour nous. Et je vous invite à vous asseoir. Dans le prophète Michée, il est écrit « On t'a fait connaître ce qui est bien et ce que l'Éternel veut de toi, c'est que tu pratiques la justice et que tu aimes la bonté et que tu marches humblement avec ton Dieu. » Que cette volonté du Seigneur nous accompagne et nous guide dans nos vies. Chantons ensemble. Nous nous présentons devant Dieu avec cette méditation de Dietrich Bonhoeffer. Seigneur, les hommes vont à toi dans leur misère et demandent du secours, du bonheur et du pain. Tous font ainsi, païens et chrétiens. Seigneur, des hommes vont à toi dans ta faiblesse, te trouvent pauvre et méprisé, méconnu et trahi. Et c'est ainsi que tu vas vers leur détresse. Seigneur, prends-moi par la main, que je puisse moi aussi aller comme toi, avec toi, vers mes frères. Je vous invite à vous lever pour recevoir cette grâce toujours renouvelée sur notre vie. Le Seigneur nous redit sa grâce à chacun de nous ici. Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse. Guidée par la foi sans renoncer à la raison qu'elle éclaire et dépasse, je confesse ce que Dieu est. Il est au-delà de tout discours, de toute parole, de toute pensée. Il est si loin, hors de tout temps, de tout lieu, de toute représentation où l'on voudrait l'enfermer. Il est si proche également, car lui nous connaît et nous aime d'un amour inconditionnel, malgré la faiblesse de notre amour pour lui. En Jésus-Christ, il s'est révélé à nous. Par sa parole et par ses enseignements, il nous enjoint à édifier un royaume hors de la haine, du fatalisme et de la peur qui gouvernent si souvent les rapports humains. Je n'ai pas vu les infirmes se lever, les aveugles voir et les lépreux guérir, autant notre frère et notre sauveur marchaient dans la poussière de Judée. Mais je n'en ai pas besoin, car notre Dieu renouvelle ses grâces et sans cesse, il me relève de ma paralysie. Il ôte de mes yeux le voile de l'inquiétude, il guérit mon âme de toutes ses afflictions. Et je sais que ce qu'il fait pour moi, il le fait pour beaucoup. Je crois qu'il nous appelle à la liberté pour que nous renversions les idoles qui nous asservissent, l'orgueil, le désir des richesses, la volonté de puissance, contre l'esclavage de l'égoïsme enraciné dans la nature humaine. Il nous appelle à dépasser cette nature, à chasser nos instincts les plus primaires, pour grandir dans l'amour impossible et l'espérance insensée d'une foi fragile, toujours menacée, mais qui nous fait marcher à la recherche du bien et nous interdit de nous asseoir au bord du chemin pour jouir de la fausse tranquillité de la bonne conscience. Je crois que parce que notre foi est souvent faible et vacillante, notre raison limitée. Nous devons être humbles. Et comme nous y appelle le deuxième commandement, ne pas penser que Dieu se limite aux représentations que nous avons de lui et qu'il se limite à quelques dogmes figés par le temps, à un amoncellement de doctrines excluantes. Je crois en Dieu et je lui rends grâce pour tout ce qu'il est, pour tout ce qu'il fait, sans en connaître autre chose qu'une infime partie. À lui seul sont le règne, la puissance et la grâce au siècle des siècles. Amen. Gloire à Dieu dans les cieux et sur la terre et d'éternité en éternité. Ce matin, nous allons méditer ensemble sur ce personnage étrange qui est dans la Bible la foule. Je dis ce personnage étrange parce que, bien que ce soit un collectif, il apparaît vraiment comme un personnage qui a son existence propre et qui a donc toutes sortes de récits qui mettent cette foule en exergue. Alors, dans l'évangile de Marc, au chapitre 3, les versets 7 à 12, on trouve ce texte. « Jésus se retira vers la mer avec ses disciples. » Une grande foule le suivit, venue de Galilée, de Judée, de Jérusalem, d'Idoumée, de Transjordanie et des environs de Tyr et de Sidon. Une grande foule, apprenant tout ce qu'il faisait, vint à lui. Il dit à ses disciples de tenir à sa disposition une barque pour que la foule ne le presse pas. En effet, comme il guérissait beaucoup de gens, tous ceux qui avaient des maladies se jetaient sur lui pour le toucher. Les esprits impurs, quand ils le voyaient, tombaient devant lui et s'écriaient « Toi, tu es le Fils de Dieu ». Mais il les rabrouait avec sévérité pour qu'ils ne parlent pas de lui. Je vous invite à chanter ensemble le cantique 222, les strophes 1 et 2. Et nous nous levons.
Thank you.
Nous prions ensemble. Seigneur, donne-nous ton esprit pour que nous sachions où aller quand nos chemins se perdent, que faire quand notre avenir est incertain, que pouvoir quand nous sommes au bout de nos forces. Seigneur, donne-nous ton esprit pour que nous puissions bâtir ton royaume en annonçant, en guérissant et en aimant. Amen. Qui est donc cette foule qui presse Jésus? Presser ou fouler, c'est le même mot. En fait, quand on parle d'un foulon, c'est quelque chose pour presser les textiles. Et donc la foule, par définition, c'est celle qui presse. Qui est ce personnage biblique qu'on appelle la foule et qui se déplace à l'instinct, sans volonté propre, mais comme une masse dont la propriété particulière serait d'être attirée par un certain type de discours et de gestes, sans chercher toujours à comprendre vraiment la signification de ces gestes et de ces discours. Jésus parle, il enseigne, mais il soigne aussi. Il libère des vies qui, se voyant enfermées dans la fatalité, trouvent en lui un secours. Il ouvre devant tous ces gens un horizon. Quand Jésus se retire vers la mer, il vient de déclencher la haine des pharisiens et des hérodiens qui l'ont vu guérir un paralytique le jour du sabbat. Il a enfreint la loi, du moins telle que la comprennent les spécialistes d'alors. En faisant cela, Jésus a pris parti pour le paralysé. Et il a choisi la vie de cet homme contre la contrainte des autorités. Désormais, il est menacé, car ils vont chercher à le faire périr. La parole publique est un acte risqué, toujours, parce qu'étant publique, elle est toujours politique. C'est vrai aussi de la parole religieuse, qui est dite en public. On peut prêcher en restant strictement à l'intérieur d'un texte biblique et en dire ce qu'il semble dire depuis des siècles, avec les mêmes mots. Alors la Bible se conserve elle-même dans la tradition devenue un peu comme du formol. On pourrait croire que cette façon de faire immuable, sans prise sur le monde dans lequel est lu le texte, n'a aucune portée politique, mais il n'en est rien. Le seul acte de lire un texte vieux de plusieurs centaines d'années à des contemporains qui ne vivent plus dans le même contexte reste un acte politique, même s'il feint de ne pas en être un. Cette lecture, qui semble ne pas sortir du cadre du religieux, agit dans son écart même avec la réalité présente, comme une négation du changement, comme une prise de pouvoir sur la vie même qui se modifie sans cesse et qui modifie les choses et les êtres. Prendre la parole pour parler de la relation de l'homme à Dieu est un acte politique, car il concerne notre rapport à Dieu, mais aussi, essentiellement, notre rapport aux autres, dans notre société. Quand Jésus prend la parole dans la synagogue ce jour-là, avant de se retrouver vers la mer, il refuse la tradition qui sclérose le sabbat, et en le réinterprétant, il révèle la crise qui divise les spécialistes de la loi et les foules qui cherchent désespérément un salut que le religieux leur refuse. Il tient un discours a-religieux pour redonner sa signification aux religieux. Il retire au sabbat son caractère traditionnel et sacré pour lui redonner sa signification première. Dieu se repose quand l'homme fait advenir lui-même le règne de Dieu, quand l'homme dépasse la tradition du sabbat en le mettant en acte, en mettant en acte la signification même du sabbat. Mais très vite, Jésus se trouve pris entre deux risques en agissant de la sorte et en parlant publiquement. D'où sa demande faite aux disciples de mettre à sa disposition une barque pour parler publiquement. Debout dans sa barque, Jésus s'installe dans la précarité de la parole publique. Il parle et pose ainsi un acte qui lui fait prendre deux risques. D'un côté, il y a ces foules, lassées et abattues comme des moutons qui n'ont pas de berger, dit l'évangile de Matthieu. De l'autre, il y a les pharisiens et les hérodiens, dont on dit que Jésus est navré de les voir aussi obtus. La parole de Jésus est au milieu de deux publics qui ont chacun leur faiblesse. Ce que cette crise révèle, c'est que la moisson du Seigneur n'a pas les ouvriers qu'elle devrait avoir. En effet, la vision dogmatique que les pharisiens et les hérodiens se font du religieux ne leur permet pas de travailler réellement au salut de qui que ce soit. Ils se croient dépositaires d'une loi qu'ils ont transformée en carcan et qui ne répond à aucun besoin des foules. Et de leur côté, les foules qui se pressent vers Jésus sans autre vision que leur propre manque ne peuvent plus se tourner vers des instances religieuses qui nient leur soif de salut. Elles sont perdues, égarées, errantes. La rupture entre les deux parties est consommée. Et au milieu, un homme se tient sur l'élément mouvant de la mer pour risquer une parole devant des autorités qui veulent le voir disparaître et devant une foule qui, à force de le presser, le fera disparaître. Les chefs religieux et politiques de Jésus, que Jésus vient de laisser à la synagogue, se définissent par leur pouvoir et leur certitude de tenir la vérité sur le salut de Dieu. Les foules, elles, se définissent par leur soif de salut, leur manque, leur misère, et le plein des uns ne comblera pas le manque des seconds. Comme un essaim d'abeilles qui n'a plus de ruche, la foule qui n'a plus de lieu où déposer son manque se déplace, et on la voit marcher dans les évangiles sans cesse, sur des kilomètres parfois, le jour comme la nuit tombée, avec pour seul but de rejoindre un homme que la réputation précède, et qui semble être la solution à tous ces problèmes. La foule dans les évangiles est tantôt émouvante par son errance, tantôt effrayante par ce qu'elle porte en elle de violence. Tous ces esprits impurs dont parle le texte et qui accompagnent la foule sont autant de fléaux, d'afflictions, de maladies qui blessent l'humanité. Ces esprits impurs sont la raison d'être de la foule. Et même si dans le récit de l'évangile de Marc, ils rendent témoignage à Jésus comme fils de Dieu, c'est en fait pour mieux le tenter, en lui attribuant une posture de héros entre ciel et terre. Là où il devrait reconnaître son engagement d'enfant de Dieu, les esprits impurs le poussent vers la toute-puissance. Jésus rabroue ces esprits qui voudraient le pousser à agir en Dieu sur la terre et à produire des actes de puissance. Jésus veut éviter à cette foule l'illusion qui jusque-là la met en mouvement. Cette illusion, c'est celle d'un homme providentiel qui porterait tous les malheurs des foules, toutes les erreurs, tous leurs péchés. La solution au manque des hommes n'est pourtant pas dans le pouvoir d'un seul, dans la personnalité d'un chef qui haranguerait la foule en lui promettant des lendemains qui chantent ou en provoquant des prodiges. D'ailleurs, la foule qui suit Jésus et le presse pour obtenir la guérison et le salut est la même qui, à la Pâque de l'année suivante, criera pour exiger qu'on le crucifie. N'est-ce pas avantageux qu'un seul meure pour excuser tous les autres, après tout ? La parole publique de Jésus s'adresse à chacun dans son cœur et ne cherche pas l'emprise sur son auditoire pour le constituer en une foule facile à manier. Sa parole est enseignement et non démagogie, appel à la conscience individuelle, édification de la foi singulière de chacun. Mais comment une foule pourrait-elle recevoir un tel discours d'édification ? Peut-on déléguer sa foi à une foule ? Le propre d'une foule, c'est de se constituer sur une fiction d'unité. Dans une manifestation, chacun a d'abord tendance à croire que tous ceux qui manifestent en même temps, dans le même endroit et parfois sous le même slogan, le font pour les mêmes raisons que lui. C'est d'ailleurs une fiction très utile pour mobiliser des forces propres à contester un pouvoir en place. Mais cette unité fictive montre ses failles dès lors qu'il s'agit de construire ou de faire des propositions et que chacun se rend compte que les aspirations de ceux qui constituent la foule sont multiples et parfois antagonistes. Chacun reprend alors ses raisons propres et seul le dialogue entre les individus peut aboutir à une construction collective. Si ce dialogue n'est pas possible, alors la place reste vacante et souvent un chef s'en empare, un chef qui se déclare le seul capable d'imposer une unité de façade qui sert ses intérêts propres en entretenant l'illusion d'une conscience collective. Si Jésus se préserve de la foule comme d'une masse capable de l'écraser dans son ministère même, comment défendre le modèle de l'Église, de l'Ecclésia, de l'Assemblée ? Après tout, le mot « foule » en grec se dit « pléthos » et veut dire à la fois « multitude » et « assemblée ». La foule qui suit la figure de Jésus est, à d'autres endroits de la Bible, valorisé comme le symptôme d'une religion qui réussit à faire beaucoup d'adeptes. Dans le livre des Actes des Apôtres, quand Pierre prononce son discours devant la foule ce jour-là, il est tellement éloquent que le texte précise que 3000 personnes furent ajoutées. La foule grossit. N'est-ce pas le propre du christianisme d'attirer les foules par sa parole ? Son universalisme ne rime-t-il pas avec son prosélytisme ? Comme Jésus en son temps, nos églises aujourd'hui n'ont pas vocation à croître sur les manques des foules auxquelles elles s'adressent, mais à annoncer une espérance à ceux qui la cherchent, sans utiliser ce manque. Elles n'ont pas non plus vocation à recréer, comme les pharisiens en leur temps, des discours culpabilisants qui intiment aux foules l'idée qu'elles ne seront jamais conformes à un attendu religieux, à cause de leur manque, de leur difficulté de vie, de leur soif de guérison. La situation de l'Église de Jésus-Christ est celle de la barque dans laquelle Jésus a prêché, entre deux rives, dans l'équilibre précaire d'une parole reçue, puis adressée. Cette nef n'est pas une fin en soi, mais un véhicule de l'amour de Dieu pour l'humanité. La parole reçue dans de multiples traditions successives jusqu'à nos jours est adressée à une multitude de personnes qui ont chacune une vie singulière et qui ne peuvent se réduire à n'être qu'un élément dans une foule. cet équilibre précaire entre réception et annonce, c'est le risque qu'il faut prendre pour annoncer l'Évangile dans le monde d'aujourd'hui. Le risque de l'interprétation des textes, le risque de l'actualisation d'un témoignage qui n'en finit pas de nous parler, mais qui a tôt fait de devenir lettre morte dès qu'on l'érige en dogme. Nos églises ne prêchent pas pour faire du chiffre. Et si d'aventure elles attiraient plus de membres ou plus de sympathisants, ce ne serait pas leur nombre qu'il faudrait alors mesurer, mais plutôt si la moisson du Seigneur a trouvé en ceux qui s'approchent de lui des ouvriers pour sa moisson, des artisans du règne de Dieu, des gens assez autonomes pour faire advenir ensemble ce règne dans notre monde. Et cela, Dieu seul peut le savoir. La foule que décrit la Bible, c'est la multitude des êtres humains qui cherchent l'amour de Dieu dans leur vie. À nous de faire connaître à chacun cet amour infini qui relève et qui émancipe la conscience de chacun. Amen. Je vous invite à chanter ensemble le cantique 214 dans les louanges et prières, les strophes 1 et 2, 214. Je vous invite à vous asseoir et nous allons partager ensemble quelques annonces avec Gilles Deveau, président de l'entraide protestante ici à l'Oratoire du Louvre. Et je vais peut-être, Gilles, simplement commencer par annoncer mardi midi le premier culte d'intercession qui aura lieu ici. Donc midi 30, vous pouvez venir partager un culte qui sera un petit peu plus, un peu moins long qu'un culte dominical, mais où il y aura une sainte scène. Voilà. Donc vous pouvez venir partager la sainte scène, ce sera une fois tous les mois. Et donc ça précède un autre moment qui reprend là, c'est l'étude biblique du mardi. Une fois par mois, il y aura donc une étude biblique. Et donc, vous pouvez participer au culte, apporter de quoi déjeuner et nous déjeunerons ensemble. Et puis ensuite, participer à l'étude biblique qui, cette année, portera sur les monstres et les chimères dans la Bible. Voilà, qui sont souvent des hybrides assez intéressants pour leur signification. Voilà, merci. Merci Gilles, et à toi la parole, pardon.
Oui, bonjour à tous, bon dimanche. Donc merci à notre pasteur Béatrice Cléromazir qui préside notre culte, puisque sa collègue, la pasteure Agnès Aldine Schaeffer, est à l'Assemblée du Désert avec quelques-uns de nos paroissiens. Donc les événements de la semaine, donc comme le vient, je vous redonne les horaires précis. Donc le partage biblique reprend, ce sera donc le mardi 7 septembre, de 14h à 15h30 à la maison presbytérale. Et comme vient de l'annoncer Béatrice, donc ça suivra le culte d'intercession, donc qui est l'une des nouveautés de notre paroisse à partir de la rentrée. Dans les événements de la semaine, donc la pause spirituelle continue tous les jeudis. Donc elle sera animée et accompagnée par le pasteur Agnès Aldine Schaeffer. Donc l'horaire, c'est l'horaire habituel, donc 12h30 à 13h30 dans le temple. Le chœur également reprend ses répétitions, donc pour tous ceux qui en font partie. Donc rendez-vous est donné le jeudi 9 septembre de 19h30 à 22h. Alors j'annonce également que l'ouverture de l'école biblique, les inscriptions à l'école biblique sont ouvertes. Alors, pour s'il y a au culte ce matin des parents qui ne connaissent pas encore la formule, l'école biblique de l'oratoire, ce n'est pas un endroit où on va dire ce qu'il faut croire et penser, mais au contraire, on va leur apprendre à lire, si vous me permettez l'expression, et puis de devenir des lecteurs critiques et autonomes de la Bible. Voilà, donc le vaste programme que, entend mener tous les moniteurs de l'école biblique. Voilà. Et puis peut-être on va essayer de faire court quand même, mais je te repasse peut-être la parole, Béatrice, pour Parole d'amour.
Ah oui, voilà. Alors Parole d'amour, c'est aussi une nouvelle initiative ici au Temple. Vous aurez une fois par mois, à la suite du culte, le même procédé, c'est-à-dire qu'on peut partager un repas que vous apportez, chacun apporte ce qu'il a pour déjeuner, on déjeune ensemble ici, et puis ensuite on poursuit à la maison presbytérale par une discussion autour de textes bibliques sur un thème particulier, et cette année ce sont tous les liens affectifs qui nous unissent les uns aux autres, dans nos familles, dans nos couples, les liens filiaux et toutes les questions qui sont attenantes à ces liens. Et donc nous parlerons tantôt de la vie conjugale, tantôt du deuil, tantôt de la perte d'un enfant, tantôt de la transmission et de l'éducation des enfants. Enfin, il y aura tous ces thèmes-là cette année, donc un thème très intéressant pour tous ceux qui ont envie d'en discuter avec d'autres ici. Et nous aurons donc la première séance donc de paroles d'amour sur le thème des alliances, de la conjugalité, donc les alliances qui nous unissent. Voilà. C'est alors la date, peut-être, parce que là, par contre, je n'ai pas en tête, mais...
Ah. Alors, je dois remettre les lunettes. Alors, voilà, donc, paroles d'amour, ce sera le dimanche 12 septembre, de 13h à 15h à la maison presbytérale.
Oui, voilà, pardon, voilà. Dimanche prochain, donc, de 12 à 15h à la maison presbytérale. Et vous pouvez venir vraiment avec tous les amis que vous connaissez, avec qui vous avez envie de discuter de toutes ces questions-là, venez et invitez qui vous voulez, c'est toujours, tout le monde est le bienvenu dans ces activités. Voilà. Alors, je vous invite aussi à vous inscrire à la newsletter de l'Église si ce n'est pas encore fait, parce que c'est là où vous aurez toutes les annonces nécessaires. Toutes les semaines, on publie une newsletter qui est bien complète pour vous dire tout ce qui se passe ici à l'Église. Voilà. Voilà.
Alors, effectivement, on a peut-être bégayé dans les euros. Alors, c'est le dimanche 12
oui.
septembre
oui.
et c'est 13h.
Oui, alors
donc
c'est 13h, mais comme on peut déjeuner ensemble, en fait, c'est dans la continuité du culte. Hein, donc, n'hésitez pas à rester ensemble. Et, voilà. Alors, c'est peut-être maintenant le moment de l'offrande pour l'entraide, au profit
Exactement.
De l'entraide. Donnez le cœur joyeux pour tous ceux qui ont besoin de notre aide. Merci. Je vous invite à la prière. Seigneur, bénis tous ceux qui sont errants dans leur vie spirituelle, qui cherchent un secours, une écoute, un lieu où déposer leurs difficultés de vie, leurs manques. Permets que nos assemblées soient des lieux où cette confiance soit possible, où nous puissions être les uns pour les autres des interlocuteurs fiables qui entendent et qui gardent dans leur cœur ce qui leur est confié, qui écoutent et qui cherchent à comprendre le point de vue de l'autre, qui reçoivent avec bienveillance et empathie, sans projeter sur l'autre ce qu'ils voudraient eux-mêmes, sans croire que tout peut se résoudre, mais simplement accompagnant cette démarche de confiance. Nous te demandons, Seigneur, d'être les ouvriers de ta moisson, ceux qui travaillent à transformer ce monde, ceux qui refusent de crier avec les foules, mais qui te cherchent en leur cœur, patiemment, sans violence. Nous te remettons, Seigneur, toutes les femmes, tous les hommes et tous les enfants qui souffrent en ce moment même de cette violence religieuse qui n'en a jamais fini de briser les vies humaines. Permets, Seigneur, que ton nom ne soit jamais confondu avec cette arme terrible qui écrase et asservit l'humanité. Aide-nous à prononcer ton nom avec le cœur et l'amour que tu nous as donné pour cela. Donne-nous, Seigneur, le discernement pour vivre selon ta parole dans nos vies et annoncer cette parole en conscience. Nous te remettons notre vie, nous te remettons tous ceux pour qui nous voulons prier aujourd'hui particulièrement. Que ta volonté soit faite, Seigneur. Et ensemble, nous pouvons dire avec confiance la prière que le Seigneur a apprise à ses disciples. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Ma sœur, mon frère, vous tous qui êtes là, dans la singularité de vos vies, allez, allez par les chemins, non pas comme une foule errante, mais comme ceux qui annoncent une bonne nouvelle pour ce monde. Recevons la bénédiction de la part de Dieu. Le Seigneur de toute grâce nous conduit et nous bénit. Amen.
peut-être tu peux te mettre le noter, comme ça je ferai. Dire s'il y a des jours en particulier, si vous revendez.
Ensemble à terre. Alors tous les jours. Donc c'est 5 euros.
Ça fait la même chose.